La fille, tu étais à l'école?
Je voudrais tourner un film ici que j'appellerais Les Indiens.
Pourquoi?
Ce sont les enfants.
Gérard Essomba, on a devant nous une vision qui est un peu apocalyptique, tranquille en même temps.
Oui.
Vous êtes sur un passage comme ça, boueux, il n'y a pas de piste.
Oui.
Avec une construction en parpaing.
Je suis entouré de 10 bistrots. Vous savez, la nuit, vous ne pouvez pas dormir ici. Quand vous allez du côté de Bastos ou bien dans les beaux quartiers, vous verrez que là-bas, il n'y a pas la France que nous avons ici. Je connais même des ministres où il y a des carreaux de leur village jusqu'au fin fond de la rivière. J'ai dit aujourd'hui, si on mettait bout à bout les murailles qui entourent les villas de nos ministres, ce serait même plus la muraille de Chine.
Et pourquoi vous voudriez tourner un film ici qui s'appelle Les Indiens?
Parce que ces enfants-là me font pitié, c'est que la plupart ne mangent pas de la journée. Les parents ne travaillent pas. J'ai des locataires qui louent des petites chambres-là à 10 000 francs, mais qui sont incapables de payer 10 000 francs. Il y a même un aujourd'hui qui accumule 6 mois de loyer. Et je suis obligé parfois de payer à manger à sa femme pour que les deux petits-enfants puissent manger.
Et alors les Indiens, ce titre?
Les Indiens de l'Inde, c'est-à-dire les intouchables, si vous voulez.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Le ton est donné dans ce Yaoundé fleuri, pluvieux et terriblement camerounais qui accueillait en sol majeur dans le cadre du CILIA, le Salon international du livre de Yaoundé, en mai dernier. Après avoir fureté, vous vous en souvenez, un week-end dans la bibliothèque de deux auteurs, Kanye Alem et Janice Otsiemi, on s'est laissé aller à la moiteur d'un dernier entretien un peu improvisé sur une terrasse familiale et qu'on vous offre aujourd'hui. Entretien avec le grand-père du très populaire Vogada, quartier situé dans les environs de la capitale. Mais franchement, c'est moins le grand-père qui m'intéresse que Gérard Essomba lui-même, homme de théâtre devenu une figure mythique du cinéma camerounais et hexagonal, incontournable dans les années 70-80, et qui a tout joué, autant les petits truands que les grands héros de Malcolm X à Toussaint l'Ouverture. Gérard Essomba, un nom auréolé de nombreux prix d'interprétation, le Fespaco s'en souvient encore. Mais aujourd'hui, rentré au pays, son témoignage pose la vraie question du statut des artistes en Afrique. Sont-ils des totems, des objets muséifiés, des passeurs? Eh bien, je ne crois pas. Je crois que le ton est donné, effectivement, lorsqu'au téléphone avant la rencontre, Gérard me dit « La plupart des artistes au Cameroun sont comme des zombies au bord de la tombe. » Comment est-ce qu'on dit « Bienvenue en Betty » ou en Ewondo, Gérard Essomba?
Non, tu sais, la vérité, j'ai quitté mon pays à 19 ans et j'ai oublié ma langue. 50 ans à Paris, c'est long. Quand je suis revenu, j'ai cherché des mots. Hein, je ne sais pas si qu'on pense ce que je veux dire. J'ai du mal à parler vraiment Ewondo.
J'ai du mal à comprendre qu'on puisse oublier sa langue maternelle, oui, même en exil.
Mais pendant 50 ans de mariage avec une femme, mon épouse, elle est là. Tous les enfants parlent français.
Votre femme est française?
Ma femme est française, elle est bretonne. Nous avons bientôt 60 ans de mariage.
Ah bon.
Alors, comprenez, c'est quand même une des belles références.
Donc, c'est de sa faute, quoi.
Si j'oublie ma langue aujourd'hui, je crois que ce n'est pas très important.
C'est de sa faute?
C'est de sa faute, oui. Bonjour.
Une écolière qui passe.
C'est les petites écolières.
Ouais.
Ici, je suis le grand-père. Tout le monde vient demander des bananes parce que, comme la plupart des gosses ne mangent pas, et quand on apporte le plateau de bananes, ils accourent tous. Je demande qu'on leur donne des bananes, sur le grand-père.
Merci de nous accueillir sur la terrasse de votre maison, dans ce quartier de...
Vogada.
À Yaoundé.
Oui.
Vous êtes un homme à la fois connu, mais mystérieux, Gérard.
Oui.
Parce que tout le monde sait que vous êtes né à Yaoundé.
Oui.
Mais quand?
Mais je suis né là, je vais vous dire une chose qui est vraie, c'est que je ne donne jamais mon âge à l'antenne. Parce que c'est personnel, et c'est de ma mère qui m'avait dit « il ne faut jamais donner ton âge ». Et ma mère, j'ai connu son âge le jour de sa mort. Elle avait 80 ans.
Vous vous sentez quel âge, vous?
Je me sens 80. Il y a un mois. Elle a réussi, hein. Et ça lui fait rire.
L. belle comme livret de famille.
Mon grand-père s'appelait Mani Ewon de Léon Barthélemy. Il a été pendu le 11 avril 1907 devant mon père qui avait 7 ans et qui assistait à l'exécution. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on dit que j'ai grande gueule dans ce pays, parce que mon père, tout au long de sa carrière, une carrière qui a été double, parce que d'abord, il a travaillé avec les Allemands quand il était tout jeune, et quand les Français sont partis, il a dû se recycler dans la langue française. Et pourtant, c'est un homme qui n'avait pas une grande culture, il n'avait pas fait de grandes études. Il est vrai que lui, il a fini par devenir rédacteur en chef des services civils et financiers dans le nord du Cameroun, avant d'être le maire de la ville de Yaoundé, avec un de mes oncles qui est, lui, est très très connu, M. André Fouda.
Votre grand-père a été pendu le 11 avril 1907.
Mm-hmm.
Par qui ?
Il a été pendu par les hommes de Bismarck. Vous savez, le Cameroun n'était pas une colonie française. Mon grand-père était presque le chef de la ville de Yaoundé, qui d'ailleurs ne s'appelait pas tout à fait Yaoundé, on l'appelait Ongola, qui veut dire la barrière. C'est le nom que les Allemands ont bien voulu donner. On dit que le nom Yaoundé vient du nom Essono, qui étaient les dignitaires, les premiers dignitaires de la ville de Yaoundé, y compris donc mon grand-père Mani Wondo, qui s'est rebellé quand les Allemands sont partis de Douala pour faire leur capitale à Yaoundé, parce qu'il n'était pas évident qu'une capitale reste à côté d'un port. Au cas où il y avait des attaques françaises, ils étaient les premiers à partir. Donc ils ont voulu s'installer à Yaoundé. Et là, mon grand-père, avec une bonne partie de sa famille, se sont rebellés. Les Allemands les ont mis au défi de se rendre. Ils ont refusé de se rendre. Mon grand-père est donc allé se cacher dans le tronc d'un arbre, parce que Yaoundé, dans les années 1907, ce n'était pas la ville que vous avez là, c'était des petites cases, parfois même sur pilotis. Donc mon grand-père est allé se cacher dans le tronc d'un arbre, dans un quartier aujourd'hui qu'on appelle Etomeki, ce qui veut dire en langue béti, le siège du sang. Il a donc été arrêté sur dénonciation, et 6 jours plus tard, ils ont tous été pendus au lieu où se trouve aujourd'hui le ministère des Finances et le premier ministère de l'État camerounais.
Vous êtes en train... Oh, il y a la sonnerie de l'école. Parce qu'on est tout près d'une
oui,
école.
C'est l'école.
On ira voir tout à l'heure.
Oui, on ira voir.
C'est
l'on sera plaisir. Mais oui, énormément.
Alors vous êtes un produit de la colonisation française, finalement, Gérard Essamba.
Oui.
On va revenir peut-être, mais comment vous avez atterri en France ?
Comment j'ai atterri en France ? Oh là là là. Tout petit, j'avais dit à mon père que je voulais être acteur. Donc j'ai demandé à mon grand frère, je lui ai dit, je viens uniquement pour apprendre le théâtre. Parce que quand j'étais gamin, je suis allé au cinéma, au lieu qu'on appelle aujourd'hui Avenue Kennedy. C'était une immense salle où les Noirs étaient tous debout derrière et les Blancs tous assis devant. Et c'est la première fois que j'ai vu un western, c'était le Vengeur de Buffalo Bill. Et depuis ce soir-là, j'ai dit, il faut que je prenne ma revanche un jour, que je fasse comprendre que les Noirs sont aussi capables de jouer la comédie au cinéma. Je suis arrivé chez Tania Balachova, qui a été mon professeur d'art dramatique. Tania Balachova, qui a été la femme de Raymond Rouleau. Raymond Rouleau lui-même était déjà un grand acteur et puis metteur en scène de la comédie française. Tania Balachova, qui dirigeait un petit cours d'art dramatique rue des Moines dans le 17e, m'a dit, vous voulez faire du théâtre ? Je lui ai dit oui. Et puis, au bout de 3 mois, elle me dit, j'ai été choisi pour interpréter le rôle du nègre dans La putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Alors je lui ai dit, mais qui c'est ? Elle me dit, ah, tu vas le voir, il a un œil à moitié fermé. Voilà donc comment je me suis retrouvé avec... Monsieur Roger Anna, le grand gorille, a commencé à répéter la pièce avec Tania Balachova au théâtre de l'Épée de Bois. Ça s'est bien passé et ce soir-là, Jean-Paul Sartre était assis à moins de 2 mètres devant moi. Le théâtre de l'Épée de Bois, c'était les premiers cafés-théâtres. Et après Tania Balachova, j'ai commencé à travailler avec Pierre Debauche en compagnie de Georges Aminel. Georges Aminel, c'était un métis martiniquais qui était peut-être, disons, le deuxième noir qui est rentré à la comédie française.
Je vais vous arrêter une seconde parce que j'aimerais qu'on se mette en oreille justement un extrait de l'adaptation de La putain respectueuse. Je situe comme ça rapidement pour les auditeurs de RFI. Ça se passe dans une petite ville du sud des États-Unis. Je parle de la trame de La putain respectueuse. Deux hommes noirs sont accusés à tort de viol. L'un est tué par un citoyen américain blanc et l'autre s'enfuit et tente une première fois de se réfugier chez Lizzie, qui est une prostituée blanche. C'est du Sartre, de la putain respectueuse. On saute dans le train de votre en sol majeur, Gérard Assomba.
Alors, toujours penché ?
Mon sac ! Vous êtes assis sur mon sac ! C'est malin ! Vous devriez le rentrer, votre éléphant, il va encore prendre une tarte.
T'as toujours pas soif ?
Non !
Pour trinquer !
Oh ! Mais foutez-moi la paix ! Vous allez laisser taper sur une femme ? C'est pas des hommes !
Non, c'est des nègres.
Vous entendez ? Vous allez dire merci ?
Ça vous fait rigoler, les nègres ? Tirez-vous d'ici.
C'est à vous de sortir, monsieur.
Sans blague.
Hey.
Remettez-moi dehors.
Et ne sachons pas l'histoire, messieurs. Vous êtes dans un wagon de noir. Et vous n'avez pas le droit.
Je le prends. Allez, foutez-moi le camp, on vous a assez.
Laissez-moi.
Je vous donne des ordres à présent.
Vous n'avez pas le droit de venir chez nous.
A comme acte 1, scène 1.
Pour en sol majeur sur RFI, toujours à Yaoundé avec vous, Gérard Assomba, quel souvenir vous avez de cette putain respectueuse que vous avez donc jouée devant l'auteur, Jean-Paul oui. Sartre, à l'époque?
Oui, le souvenir que j'avais, c'était celui de Tania me soufflant.
Tania Balachova.
Balachova,
donc.
Elle était assise au premier rang, à côté de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Tania me soufflait. « On voit ton slip rouge !» Parce que je portais un jean. Dans la mise en scène, elle me faisait faire 3 tours de piste à l'extérieur avant d'arriver sur scène, où j'étais complètement essoufflé. Ça justifiait aussi le fait que le noir, sortant du train, a été poursuivi par la police qui le traquait et qui voulait même l'abattre. Donc ça, c'est l'un des souvenirs que j'ai gardé de la mère Tania. Oh, ma petite mère.
Alors il y a parmi les rôles qu'il faut absolument stabiliser dans votre très longue carrière, ce fameux Toussaint l'Ouverture.
Ah.
Le Toussaint l'Ouverture de Bernard Dadier, de quel auteur vous...
Non.
Le texte a été écrit par qui?
Le Toussaint l'Ouverture était celui de Jean-Louis Sagot du Vourou. C'était un ancien prêtre français parti évangéliser au Mali et qui s'est rendu compte que l'évangélisation qu'il allait apporter à ces nègres ne correspondait pas du tout à leur logique et à leur philosophie. Je crois d'ailleurs qu'il a jeté sa chasuble, puisqu'il a fini par épouser une malienne, dont aujourd'hui il parle d'ailleurs le Bambara. Et la pièce a donc été jouée à Dakar pour le 3e sommet de la francophonie, devant 43 chefs d'État de la francophonie. C'est l'un des spectacles qu'un acteur ne peut pas oublier. Comment jouer devant 43 chefs d'État?
43 chefs d'État, dont Paul Biya?
Non, justement. Paul Biya n'était pas là, il était absent. Raison pour laquelle...
Comment expliquer ça?
Mais je ne sais pas, madame. La preuve, c'est qu'il ne m'a jamais répondu, la main tendue. Ça fait plus de 20 ans que j'écris au président Paul Biya pour discuter un tout petit peu avec lui. Et la dernière fois que je lui ai écrit, c'était en 2007. Mm. Et c'est le président Abdou Diouf qui a pris mon courrier à l'hôtel L'Indépendance à Ouaga. Mais je n'ai jamais reçu de réponse.
On reviendra sur le dossier peut-être politique,
Dans toute l'ouverture, ce qui faisait tellement plaisir au chef d'État africain, c'est qu'il y avait une réplique où Toussaint l'Ouverture disait « Il n'y a pas plus hypocrite qu'en français. Et je suis seul en scène. » Et François Mitterrand est assis à moins de 10 mètres devant moi, à côté de lui. Houphouët Boigny et Abdou Diouf. Et tous les autres chefs d'État derrière, je les voyais bouger la tête en train de sourire un tout petit peu en disant « Oui, Gérard Assomba a dit tout haut ce que nous on pense tout bas. »
Gérard Assomba, j'aurais adoré, ici à Yaoundé, imaginer vous avoir vu sur la scène de cette grande pièce de Bernard-Marie Coltès, Combat de nègres et de chiens, où vous teniez ce rôle d'Albouri.
Albouri.
Alors, qui n'a pas vu la pièce, c'est qui Albouri?
Albouri, c'était un noir qui travaillait dans un champ de pétrole au Nigeria et qui est revenu plusieurs fois réclamer le corps de son frère qui avait été tué. On ne sait pas encore trop bien pourquoi et comment. Bon, je veux revenir un peu à la genèse de cette histoire, de cette pièce, parce qu'elle me tient beaucoup à cœur depuis que je suis revenu en Afrique. J'ai joué à Strasbourg, au TNP, une pièce de Max Foster, Tom Penn, où j'ai joué aussi le rôle du général Burgon. Vous voyez, ma grande taille m'a toujours donné des rôles de policier et de justicier. Et pendant les répétitions, j'ai rencontré un jeune homme qui tous les après-midi venait assister à nos répétitions. À un moment, je me suis posé la question si ce n'était pas un espion, quelque chose comme ça. Puis à la sortie, il est venu me voir et m'a dit « Est-ce qu'on peut parler, on peut discuter ?» Je lui ai dit « Vous êtes qui ?» Il me dit « Je suis ici à l'école. » J'ai dit « Bon, pourquoi pas ?» Et puis il a commencé à me poser des questions sur l'Afrique. Il me dit « Vous êtes de quel pays ?» J'ai dit « Du sud du Cameroun. » Le Cameroun, pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté son Alsace, il ne pouvait pas imaginer sur une carte d'Afrique où pouvait se situer le Cameroun. Et puis on a continué à discuter. Il me dit « Est-ce que tu ne connais pas une histoire qu'on peut raconter sur un pays comme le Nigeria ?» Je lui ai dit « Oui, il y a des puits de pétrole au Nigeria. On peut inventer une histoire qui se passerait dans ce champ de pétrole où il y a beaucoup de blancs et que tous les manœuvres, c'est tous des Africains, des Nigérians. » Ah. Voilà donc comment l'idée a commencé à germer. Et je lui ai même trouvé l'un des noms africains qu'il voulait. Je lui ai dit, il y a un homme qui s'appelle Samari. Et voilà donc, Samari est devenu Albouri. Et cet Albouri, c'est moi qui ai donc été le premier à l'interpréter avant Sidi Kibakaba qui ne le savait pas.
Vous êtes une encyclopédie hein,
attendez,
de l'histoire du théâtre.
Ça me tient à cœur, Yasmine.
C'est fou, oui.
Je vous parle des droits d'auteur aujourd'hui.
Oui.
Parce que normalement, je dois toucher les droits d'auteur de Combat des Nègres et des Chiens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Lucien Atoun, qui gérait le théâtre ouvert à France Culture, il consulte la liste des comédiens homologués. À l'époque, j'étais en deuxième catégorie. J'arrive rue d'Assas, un petit café. Je vois beaucoup de comédiens. Puis on me donne le tapuscrit. Quand je regarde le nom de l'auteur, je vois Bernard-Marie Coltès. Je dis, mais qui est-ce? Mais je le connais. Et quand il est arrivé, il m'a sauté au cou. Ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas revu et qu'il a réussi à pondre ce document qui est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures pièces du théâtre français.
Ce que je note dans le peu de pièces et de films à votre actif dans cette carrière, vous concernant Gérard Assomba, c'est qu'on vous appelle souvent pour interpréter des rôles de noir.
Oui.
Vous le regrettez ou pas? Vous êtes un comédien.
Pas que je regrette ou que j'approuve.
Vous n'auriez pas voulu jouer Roméo de Shakespeare?
Non, pas forcément Roméo. J'ai déjà joué Marco, j'ai déjà joué Kubilai Khan. Regardez devant vous, vous avez une photo là où j'incarne Kubilai Khan, empereur mongol. Et ça, c'est un rôle qu'on ne donnait pas habituellement aux acteurs noirs. J'avais passé un casting avec Madame Marie-Claire Valène, qui était une femme qui aimait l'acteur, mais pas la couleur de l'acteur, qui m'a donc proposé de jouer ce personnage de Kubilai Khan. Hein, mais quand je suis revenu à Paris, je croyais que d'autres allaient me faire des propositions un peu plus au-dessus. Mais non, on a toujours demandé à me faire des rôles où il fallait être boy, madame. Oui, non, j'aurais bien voulu jouer d'autres personnages, un tout petit peu comme Sidney Poitier, qui était quelqu'un que j'admirais depuis que j'avais vu Dans la chaleur de la nuit.
A sleepy lagoon, tropical moon, and two on an island. A sleepy lagoon and two hearts in tune in some lullaby land. The fireflies gleam, reflects in the stream, they sparkle and shimmer. A star from on high falls out of the sky and slowly grows dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze and float on the ripples.
On est un peu allongé avec vous, Gérard Assomba, toujours sur RFI pour En Soul Majeur au Cameroun, avec Sleepy Lagoon d'une certaine Doris Day. Vous les aimez blondes, alors?
Oh, j'adorais les blondes, mais maintenant j'adore les brunes.
Doris Day appréciera.
Doris Day, Doris Day, Sleepy Lagoon, c'est magnifique.
Message personnel.
J'adresse un message direct à la première dame, Chantal Biya, que j'ai rencontrée dernièrement à l'UNESCO lors de sa nomination comme ambassadrice du Cameroun. Je l'appelle au secours. Je suis un SDF dans mon pays. Je n'ai pas de logement. Je peux dire que je squatte chez ma nièce parce que nous, les acteurs, n'avons jamais eu de salaire. Est-ce que depuis ce mot adressé à la première dame du Cameroun en 2008,
ça s'est Gérard passé à l'UNESCO, Samba, oui.
Est-ce que les autorités se sont tournées vers vous?
Ils ne se sont pas retournés vers moi pour essayer de me calmer un peu. On m'a couvert des décorations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être l'acteur camerounais le plus décoré. J'ai 5 décorations de l'État camerounais, oh, qui pour moi, c'est du chocolat.
Alors, vous dites que vous êtes SDF. Bon, vous êtes dans un quartier populaire, je dirais, mais vous êtes dans une maison. Vous avez un toit au-dessus de votre maison et oui, vous avez une vraie maison qui a l'air assez agréable,
oui,
quand même.
Oui, oui, oui. SDF, c'est-à-dire, c'est les premiers jours quand je suis arrivé au Cameroun. Vous savez, après 50 ans de vie à l'extérieur, on a un peu du mal à accepter de revenir au village où on dort dans une case, où on peut dormir dans le noir, sans lumière, sans eau. Donc, j'avais préféré me mettre un peu en dehors de la famille. Parce que nos familles, c'est que quand vous revenez, tout le monde vient vous solliciter. On pense que vous avez ramené non seulement la Banque de France, mais que vous avez ramené aussi beaucoup d'argent pour nourrir tout le monde.
Mais pourquoi vous avez quitté la France? Pourquoi vous avez décidé de rentrer au pays?
J'ai quitté la France parce que mon frère aîné, qui était professeur de médecine, avant sa mort, il m'a dit, il faut absolument que tu reviennes au village pour que tu reprennes un tout petit peu l'héritage. Et cet héritage, je vous dirai qu'aujourd'hui, il est riche sur le plan tertiaire. Je gère 4 hectares de terrain de ce carrefour jusqu'à l'autre carrefour qu'on appelle Cornier. Vous verrez que si j'avais eu un peu plus de moyens et de possibilités, et puis peut-être aussi une meilleure visibilité auprès de ceux qui gèrent le pays, j'aurais développé une bonne partie de ce quartier, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait.
Donc vous avez décidé de sacrifier votre carrière en vous mettant au service de la tradition et de la famille.
Au service de la tradition et aussi avec l'envie de créer un centre de formation d'acteurs. Parce que dans nos pays, vous savez, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent être de très bons acteurs, mais que malheureusement, ils ne sont pas formés du tout. Hein, je vous dirais que quand on me demande de tourner dans un film avec des Camerounaises, quand je les vois avec une perruque blonde sur la tête, j'ai du mal à garder mon texte dans ma mémoire. Et c'est pareil comme au théâtre. Au théâtre, vous avez des gens qui aboient sur une scène comme si on était dans un marché public, mais qui ne savent pas que parfois on peut parler en aparté, suivant la situation. Donc toutes ces choses-là, j'ai voulu les inculquer à la jeunesse camerounaise. J'ai fait un dossier. Madame Mouna Toutou, qui était ministre de la Culture à l'époque, avait donné son accord. Elle était entièrement d'accord que je puisse bénéficier d'une aide pour créer non seulement un centre de formation, mais dans les 10 régions du pays. Vous vous imaginez, ça nous aurait permis de créer des petits centres culturels. Aujourd'hui, il y a un embouteillage à l'Institut de France, parce que tous les spectacles que les Camerounais montrent aujourd'hui, on va les passer, on va les montrer à l'Institut de France, où il y a encore beaucoup de gens qui traînent encore les pieds et disent « Ah, on retourne encore en France chez les Français, leur demander ce qu'on leur a reproché tout le temps. Mmh. » Donc malheureusement, je n'ai pas eu d'appui. On m'a laissé tomber parce qu'on a dit « Il a trop grande gueule. » J'ai dit « Trop grande gueule
» et puis vous êtes... Estampillé diaspora. Est-ce que ceux qui reviennent, ceux qui font partie de la diaspora et qui rentrent au pays, oui, ne sont pas forcément extrêmement bien accueillis et bien attendus?
Non. Il y a une espèce de barrière qui s'est créée le plus souvent parce que beaucoup nous considèrent un peu comme des opposants. Opposants à quoi?
Si vous êtes un opposant, vous.
Non, je ne suis pas un opposant. Opposant à quoi? Quelle politique? Je ne trouve pas de politique ici. La seule politique que je trouve ici, c'est celle du ventre.
Et quelque chose de triste un petit peu, c'est que vous êtes un monument pour l'histoire du cinéma hexagonal et africain, mais vous n'êtes pas forcément connu de la jeune génération camerounaise. J'aimerais bien qu'on rentre à l'intérieur de votre maison, qu'on quitte cette terrasse où il y a une espèce de moiteur, celle qui appartient au mois de mai, ici à Yaoundé.
À condition...
Voilà, pour qu'on visionne quelques-uns de vos films, c'est possible ?
Oui, à condition qu'il y ait l'électricité.
Ah.
Parce que depuis 2 jours, on est sans lumière.
Combien d'heures d'électricité par semaine ici au Cameroun ?
Oh, je ne sais pas, vous savez, depuis hier 20 heures, on est sans lumière. Elle vient toutes les 10 minutes, puis elle s'arrête. Hein, le frigidaire, il se désire, toutes les nourritures...
Madame peut s'exprimer, il n'y a pas de problème.
Oui, on va y aller. On va y aller. Ah, la lumière.
Que la lumière soit.
Oui, donc on pourra regarder quelque chose.
Voilà, nous y sommes.
Ici?
J'ai ordre de vous abandonner dans le désert. Descendez.
Mais vous êtes fou, vous devenez fou!
C'est l'ordre du commandateur.
C'est quoi le titre?
Ça, c'est le mythomane de Michel Wynne.
Pitié, général, pitié, qu'est-ce que...
Pour la télévision française.
Vous êtes très barbu, très...
Oui,
costumé encore.
Barbu.
Hein.
Ouais, c'était un peu l'époque révolutionnaire. Tout le monde voulait paraître un peu comme Ozoku. Hein, c'est pour ça, à l'époque, on gardait la barbe.
Alors, il faut que je meure ici, sous les yeux des chacals. C'est ça que vous voulez?
Je vous laisse une chance. L'oasis est à 10 km, à gauche.
Au général! Général!
Oh. Alors, extrait suivant.
Je suis tout seul ouverture. Mon nom vous est peut-être connu. J'ai entrepris de me venger. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les réaliser. Unissez-vous à nous, mes frères, et combattez avec nous pour la même cause.
Vous avez une quarantaine d'années, là, à peu près.
Oui, j'avais 42 ans.
La liberté et l'égalité, c'est moi.
Cette voix-là qu'on vient d'entendre, là, elle appartient à un très grand comédien français, Jean-Claude Brialy, oui. Qui apparaît sur un écran, alors que vous êtes sur scène avec le bicorne, costumé en Toussaint Louverture.
Oui, parce que c'est un tournage qui n'a pas été fait dans les conditions habituelles. Il arrivait des fois que j'ai tourné tout seul et que mon partenaire, je le retrouvais le lendemain sur un écran. Et là, on arrivait à se joindre pour essayer de faire la connexion un peu et pouvoir jouer au même rythme, ne pas perdre le fil de l'histoire, parce que c'était facile de se tromper complètement.
Ça, c'est le rêve pour un comédien de la diaspora, du continent en même temps, d'interpréter le grand libérateur du peuple noir, qui est Toussaint Louverture.
Oui, ce n'est même plus, on ne peut même plus appeler ça rêve. C'est quelque chose qui vous va droit au fond des tripes quand on vous dit vous allez interpréter un personnage aussi célèbre que celui-là. Et j'ai eu la même occasion d'interpréter aussi un personnage dans le même genre, c'est-à-dire le chevalier de Saint-Georges. Vous savez, Saint-Georges...
Chevalier noir.
Oui, le chevalier de Saint-Georges qui avait été nommé par la reine Marie-Antoinette pour diriger l'opéra, mais qui a connu les plumes de racisme que peut-être un siècle plus tard, nous aussi, on les a rencontrés le plus souvent. Je ne peux pas dire le nombre de fois où j'ai été remercié parce que j'étais trop clair ou j'étais très noir, etc. etc. Donc, Chevalier Saint-Georges a connu un peu ce qu'aujourd'hui, beaucoup de comédiens noirs connaissent en France.
On va juste avoir un petit peu de contrôle et de pouvoir sur cette vilaine télécommande. Ah, vous êtes magnifique, là. Vous êtes habillé d'une drôle de façon, tout en divaguant dans les rues de Paris.
Oui, c'est un vieux roi venu du Congo pour chercher sa fille partie depuis plusieurs années en Belgique pour faire des études de médecine, mais qui rencontre pas mal d'avatars. Donc, Pièce d'identité, c'est un film qui m'a rapporté au Barmo, je crois, 8 prix d'interprétation, film de Mwenze Dieudonné Ngangoura, qui est là-bas à Bruxelles, à qui j'adresse vraiment toute mon amitié. J'aimerais bien le revoir.
Qu'est-ce qu'il disait Shakespeare déjà, Gérard Assomba, sur chacun doit jouer son rôle ?
Je ne suis pas habitué au théâtre shakespearien. J'ai été nourri au théâtre français. Donc, quand on me parle de Shakespeare, je dis, c'est loin de ma portée.
En tout cas, vous avez joué votre rôle dans ce cinéma hexagonal et le cinéma africain. Et vous avez même joué un président sous la houlette du grand Jean-Pierre Bekolo, cinéaste camerounais exilé aux États-Unis.
Oula. Oui, ne parlons pas trop de ce film, parce que jusqu'ici, il est toujours frappé d'interdiction. parce que depuis la sortie, personne ne l'a jamais vu vraiment au Cameroun.
L'argumentaire, rapidement.
L'argumentaire, c'est un chef d'État qui, un soir, décide de quitter son palais presque en contimini, sans dire à son épouse ni à ses gardes-corps où il y va. Il va donc essayer de se cacher au village de sa première épouse. C'est peut-être là aussi que je dis que Jean-Pierre Bekola, et c'est aussi un homme politique, parce que le scénario a été écrit entre Bekola et Simon Djamy. Simon Djamy qui anime aujourd'hui la Biennale à Dakar et qui m'a complètement oublié que Gérard Essomba aurait pu être invité aussi à Dakar. Et c'est là que j'ai dit que les Africains et les Camerounais en particulier, nous avons une absence dans la mémoire qui fait en sorte que nos rapports s'arrêtent le jour où on fait des choses ensemble et puis après on ne s'en voit plus.
Mmh. Ouais. Les indépendances et les dirigeants africains ont produit des sociétés où chacun est le petit chef ?
Les indépendances, je peux dire que les indépendances, on les a ratées. Hein. L'indépendance ne se donne pas. Je crois qu'elle s'arrache. Quand j'étais tout petit, je savais ce qui se passait déjà avec les Felaga. Ils se sont battus pour avoir un État, même s'il y a eu des difficultés par la suite. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus respectés que nos pays, que nos indépendances.
Heureusement qu'on a eu l'électricité quand même. Hein. On va retourner finir notre conversation sur la terrasse.
O sinyo tape boso, omba nai pasine pasi omba. Bongi ese itele non de mile mare omba. O madangwa tenge ya, o dangwa londo kamoto se tona boloi boloi. O si dimbe ya bona, o kusi minam na minam songele. Ya nu pepe nu kusi misima kawa langwa. Oi dimbea, oi dimbea na wande iba kenoi duba na bolongi basu. Oi dimbea, obina, wende bisoka no musina nujae mtese bolo olondo. Oi dimbea, disima na pebila, dipimbi mkwata wone, disengi mwenge mandolo. Mwene kombo e longi non, nampungu musibepe umate. Naditele nde misoma sujene mwaye. Ya sana jale jene mwaye. Disi ya be disuba bonami. Busasa e jale jene mwaye. Dibi ya bolone bo bonami. Ya sana ya lejene mwaye Osi banga keja suba bonami Ya sana ya lejene mwaye Osi banga keja suba bonami Masoma, masoma na loba kimoi
Merci Francis Bebey, merci RFI. Mais y a-t-il seulement une rue Francis Bebey dans ce Yaoundé où l'on discute en sol majeur avec Gérard Essomba ? Gros problème de mémoire dans le pays, donc me vient l'envie de lui faire entendre sur sa terrasse de Yaoundé la voix du grand réalisateur, acteur, producteur français d'origine mauritanienne, Medondo, qui lui aussi porte un regard critique sur sa génération, le métier et le continent.
J'ai constaté qu'effectivement, les cinéastes de ma génération, nous avons échoué. Nous avons échoué parce que sans doute nous avions des objectifs trop grands, trop puissants par rapport à nos petites forces individuelles. Mais nous avions des ambitions d'unité et d'unité permanente entre les cinéastes pour nous interroger, parler entre nous, critiquer nos films, nous aider, être l'assistant l'un de l'autre et défendre la diffusion. Et nous aurions réussi si nous avions pu organiser un marché du film africain. Aujourd'hui, vous avez un film mauritanien qui ne peut pas passer en Tunisie, ni au Togo, ni en Égypte. Un film algérien ne passe pas au Mozambique, et ainsi de suite. Quand les cinéastes africains, dans leur petit îlot national, je dis petit îlot national par rapport à notre continent, ils font un film, le film passe éventuellement au pays.
Au Ondo Ondo.
Alors, Med Ondo, vous n'avez pas été que son prof de tennis. Un rival peut-être,
C'était un grand frère. Je dis grand frère parce qu'il a un peu plus âgé que moi, pas beaucoup. C'est d'abord l'un des meilleurs doubleurs. C'est peut-être celui qui a fait le bonheur et le succès du cinéma américain.
Donc, grand doubleur d'Eddie Murphy notamment. Mais vous l'avez entendu, là, il exprime une grande colère très contenue sur votre génération, comme il dit, qui a échoué. Nous aurions réussi si nous avions pu organiser un marché du cinéma africain. C'est le métier, vous diriez, qui est malade sur le continent, Gérard Assonda ?
Non, si dans les institutions internationales comme l'OUA, on a échoué, à plus forte raison, nous, les artistes, qui n'avions que très peu de moyens. Combien de fois j'ai rêvé entrer dans un studio de TF1 ou bien d'Antenne 2. Bon, on peut dire qu'on a échoué, mais on a essayé d'ouvrir un peu les brèches pour que les générations qui aujourd'hui arrivent puissent profiter. Il n'y aurait jamais eu d'Omar Sy. Figurez-vous que quand j'ai passé 10 fois le casting de Oncle Ben's, on me disait, on va vous engager, on vous appellera.
Donc c'est une pub pour du riz.
Oui, mais c'est une pub qui pouvait faire manger pendant plus d'un an.
Absolument.
Quand par exemple, je vais voir...
Et alors qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous l'avez eu? Vous l'avez pas eu?
Non, je ne l'ai pas eu. Vous savez, bon, ce n'est qu'une petite parenthèse. Quand par exemple, je vais voir un metteur en scène comme Michel Roux au Théâtre Marigny pour le casting de L'Amant de Bourneau. Et dès qu'il m'a vu monter sur la scène, il dit « Ah, vous n'êtes pas tout à fait noir. » Et moi, je lui ai dit « Écoutez, j'ai une boîte de cirage, ça va aller. » Je lui ai dit « Au revoir, je suis reparti. »
Donc, vous n'aviez plus votre place en tant que comédien dans cette France des années 2000.
Non.
Et vous êtes considéré comme un étranger chez vous ici.
Encore. Le fait qu'on n'a pas eu des rayonnements en France, ça a rejailli dans nos propres pays où les gens nous ignoraient complètement. Je n'avais pas la même visibilité qu'un Samuel Eto'o. La preuve, c'est que cet homme-là, si aujourd'hui il dit « je suis candidat à l'élection présidentielle », les gens vont dire « oui, on connaît Samuel Eto'o, mais qui connaît Gérard Assomba qui est joué devant 43 chefs d'État ?»
Donc après une carrière telle que la vôtre, votre quotidien d'acteur, réalisateur, metteur en scène, c'est quoi ici, à Yaoundé ?
Mon quotidien, c'est que je ne baisse pas les bras, je continue toujours à m'initier, à apprendre l'art de l'écriture. Parce que vous savez, quand on a côtoyé quand même pendant plus de 6 mois un homme comme Aimé Césaire pour le casting de la tragédie du roi Christophe au théâtre de l'Athénée en 64, je vous montrerai encore le manuscrit de 64.
Le passé ne peut pas vous faire vivre indéfiniment. Et la télévision nationale camerounaise?
La télévision nationale, j'avais un projet qui dure depuis plus de 2 ans aujourd'hui pour monter 3 petites pièces, ce qu'on appelle des soutis. Et ces pièces-là, je les travaillais avec mon collaborateur, Arthur Sibita, qui est mort de famine il y a 2 ans. La télévision camerounaise m'a fait tourner en bourrique.
La télévision nationale qui est riche?
La télévision nationale est riche parce que, bon, il y a encore quelques années, elle avait un budget d'environ 20 à 22 milliards de francs, plus tous les dons qu'on peut recevoir de l'étranger. Figurez-vous quand, par exemple, je vois un ministre de la Culture qui reçoit des dons venant de Chine avec tout un tas de matériel. Ce matériel, je me demande bien à qui il peut bien servir. Toutes ces choses-là, c'est navrant, c'est choquant. J'ai dit, je suis Camerounais, j'ai droit aux aides de l'État. Je travaille pour la nation camerounaise, je ne travaille pas uniquement pour moi. Bien sûr, je travaille pour moi aussi parce que j'ai envie de manger. C'est peut-être grâce à la France que je continue à manger parce que c'est la France qui paye toujours ma pension de retraite.
Mesdames, bonsoir Max.
Bonsoir.
Tiens, assieds-toi. Et bouge, donne-lui dans une fourchette. Tiens, tu vas pas laisser paumer ce bout de gâteau-là, on laisse assez groseille ici.
Merci.
Qu'est-ce que tu bois?
Un café.
Donne-lui un café.
Alors, Max, t'as pas répondu. Tu viens nous applaudir?
Je suis au risque. Si ça te déplaît, tu te tires avant la fin.
Personne n'est forcé de rester.
Si.
Bon, ben, je vous accompagne, mais sans engagement, hein. Alors, on va emmener le monde Marco. Comme ça, si je m'en vais, toi qui aimes pas rester seul, t'auras de la compagnie.
C'est comme...
Tu vas voir, c'est l'amant sirène. Ça va te changer les idées.
Casting.
Un petit mot de...
Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. La première figuration que j'ai faite quand j'ai quitté l'école, c'était derrière M. Jean Gabin. avec mon ami Daniel Camois qui vient de tourner son dernier long métrage ici. On nous avait pris pour faire des figurants à Orly dans un film qui s'appelle Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil.
Grand film.
Regardez à l'aéroport, à la douane, il y a un homme habillé d'un costume un peu clair, c'est Gérard Essomba qui avait encore la touffe afro à l'époque.
Je vous sens, Gérard Essomba, quand je vous écoute parler de culture, et la culture, c'est vrai que c'est quelque chose qui transcende les questions identitaires, mais je vous sens à la fois blanc et noir, si j'ose dire. Est-ce que vous vous sentez, vous, de double culture ?
Oui, par moments, je me demande même quelle est ma couleur de peau. Parce que j'ai toujours l'impression que quand je rêve toujours de Paris, je rêve toujours de la place des Vosges, je rêve toujours du Bataclan, où j'ai connu, où j'ai eu mes 20 ans, où pas loin de là, on a tué un homme comme Cabu. Je vous montrerai tout à l'heure, dans les clichés que j'ai là, le dessin que Cabu m'a fait. Cabu est rentré dans ma loge au théâtre quand je jouais dans l'école des dictateurs. Il est rentré, il m'a dit « Vous êtes de quel pays ?» Je lui ai dit « Je suis du Cameroun. » Il me dit « Je n'ai jamais été au Cameroun. » Il ne connaissait même pas l'Afrique. Et puis on lui a demandé de faire la caricature du personnage que j'interprétais. Je jouais, pour une fois, je jouais un curé. Il m'a dessiné, vous verrez la caricature, elle est là. Mais quand j'ai vu qu'on l'a abattu comme une bête, je vous assure que j'ai pleuré. Et c'est dans ce quartier que j'ai eu mes 20 ans. C'est pour ça que j'ai dit que mon cœur bat encore souvent pour la France, même si la France ne m'a pas renvoyé l'ascenseur comme j'aurais pu l'avoir en 89, parce qu'avec Toussaint Louverture, j'aurais pu avoir une Légion d'honneur. Il y a des imbéciles qui l'ont reçu, mais pas moi. C'est pas que je biche absolument à la Légion d'honneur. J'en ai tellement reçu ici qu'aujourd'hui, elle ne me sert absolument à rien.
Comment vous êtes devenu francophone ?
Je suis devenu francophone, j'avais à peu près 11 ans. À 11 ans, je ne parlais pas un seul mot de français. Écoutez-moi bien, à 10, 11 ans, personne ne parlait français ici au village. Tout le monde s'exprimait en langue vernaculaire, c'est-à-dire les Wondo. Parce que quand on disait qu'on parlait français, nous les gamins, on disait que les Français, quand ils parlent, ils font ça. Ils disent oui, je n'avais jamais entendu parler français.
Ils parlent comme les oiseaux, ça faisait un son d'oiseau.
Exactement. Et on n'avait jamais vu de blanc ici au village. J'ai commencé à parler français, j'avais à peu près, je crois, 13 ou 12 ans, puisque je suis rentré à l'école à 11 ans. Pourquoi ? Parce que le système colonial à l'époque ne voulait pas qu'on entre à l'école avant d'avoir fait d'abord la première communion. Parce que les deux allaient de pair, c'est-à-dire l'État d'un côté et l'Église de l'autre. L'Église catholique qui a un peu abruti la plupart des Africains, et particulièrement au Cameroun. Et c'est pour
Mais
ça.
Le fait que vous soyez devenu assez tardivement francophone, c'est ce qui explique aussi votre très grand attachement à la langue
grand
française.
Grand désir à la langue française. À l'école primaire, vous savez, la première récitation qu'on nous a apprise, c'était... L'an passé, cela va sans dire, j'étais petit, mais à présent que je sais compter, lire, écrire, c'est bien certain que je suis devenu grand. Quand sur les genoux de ma mère, j'étais petit, j'avais 5 ans, la chose est grande, maintenant j'en ai 6. Le maître dit, levez-vous, et je me lève. Le sac qui pend à mon épaule dit que je suis un grand garçon. Quand le maître sourit,
c'est parti. Un petit bout d'enfance.
C'est un petit bout d'enfance.
Un petit bout d'enfance.
Ouais. C'est pour te dire par là que la culture française, elle est ancrée en moi jusqu'à la fin de mes jours. Malheureusement, je dis malheureusement, je n'ai pas pris la nationalité française. Tous mes enfants sont français, y compris ma femme. Moi seul, reste Camerounais. Mais je ne me suis pas séparé de la France pour autant.
Hé, hey, messieurs, allez faire du vélo là-bas, hein.
C'est pas une piste cyclable hein, devant
non,
chez
non,
vous, hein, Gérard.
En plus, ils font la poussière, ils font n'importe quoi.
Vous énervez pas. Ça vous fait mal au cœur et puis on a encore besoin de vous. Hein. Je crois savoir aussi, Gérard Essomba, que vous êtes extrêmement attaché à un siècle, le 18e, avec la clique, si j'ose dire, les Montesquieu, les Voltaire,
Jean de La Fontaine,
les Rousseau.
Même si de temps en temps, je reproche à Voltaire son passage dans le commerce triangulaire. Vous savez, je l'ai beaucoup aimé quand il a pris la défense de la famille Calas, le Capitole de Toulouse. C'était honorable. Et je voyais un culte à M. Voltaire à chaque fois que je passais au jardin du Luxembourg. où il y avait sa statue dans un petit coin. J'allais faire presque une génuflexion. Mais hélas, comment on pouvait imaginer que cet homme lui aussi a trempé dans ce commerce honteux.
L'ambivalence du siècle des Lumières.
Oui, quant à Montesquieu, de temps en temps, je reprends encore les lettres persanes pour les lire et voir un peu ce côté raciste qui était ancré en lui. C'est pour ça que quand j'arrive dans mon pays et que je trouve un collège sur l'avenue Manihono qui porte le nom de Montesquieu, je dis, ah, c'est pas un intello qui a donné ce nom, c'est peut-être quelqu'un qui aurait dû aller planter les pommes de terre au village. Hein. Mais ceci dit, la littérature française au XVIIIe siècle, c'est une période que j'ai beaucoup aimée, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller dans les grandes écoles pour faire la littérature. Peut-être que j'aurais été agrégé et devenir peut-être futur président du Cameroun, mais non, pas du tout. Ma condition de comédien qui a essayé de broulinguer un peu à travers le monde me plaît énormément. Mais donne-moi du Rousseau. Le Rousseau, je dors avec en lisant toujours La Nouvelle Héloïse. Ou alors, par exemple, je reprends Victor Hugo, qui avait quand même une manie d'adorer sa bonne noire, même si aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que tous ces grands écrivains ont connu des femmes noires.
En sol majeur, @rfi.fr.
Pourquoi ce titre de Matt Monro, Stranger in Paradise, qu'on écoute ici à Yaoundé pour en sol majeur, Gérard Assomba?
Et savez-vous qui a adapté cette chanson russe en français? C'est un grand acteur français qui s'appelait Francis Blanche.
Ah oui.
Ce bonhomme qui a passé son bac à 14 ans, qui avait une intelligence extraordinaire. J'ai tourné avec Francis Blanche dans un film qui s'appelait « Qu'est-ce qui fait courir les crocodiles ?» avec Michel Serrault. Et tous les matins, il me prenait à la porte Saint-Cloud dans la grosse voiture qui nous amenait au tournage. Et il me dit, tu sais, petit, j'ai fait des adaptations, je ne le croyais pas. Mais jusqu'au jour où j'ai essayé de chercher, j'ai compris que c'est Francis Blanche qui a donné les paroles françaises. Prends ma main car je suis étrangère ici, perdu dans le pays bleu, que chante donc Gloria Lasso. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la version de Gloria Lasso, mais là, j'ai découvert celle de Matt Monro, qui est un chanteur italo-américain qui parfois a failli éteindre le succès The Voice, c'est-à-dire Frank Sinatra. C'est une voix magnifique. Alors je demande au public, aux auditeurs, d'écouter Stranger in Paradise par Matt Monro. Stranger in Paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. For mortals who stand beside an angel like you, I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care.
En sol majeur à Yaoundé, avec Facebook, Twitter, et puis en podcast, bien sûr, sur notre application Pure Radio et derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, de retour à Paris samedi prochain. On vous retrouve avec un acteur gitan nommé Logan de Carvalho. À la semaine prochaine.